Et non, ce n'est pas du gloubi-boulga. C'est de l'herbe. De l'herbe.
Salut à tous, c'est Daniel Baillet, le Gourmandas. 93.8 à Banos et 101.1 à Mont-de-Marsan sur MDM, bien évidemment. Donc, comme prévu et nous avions dit la dernière fois, nous allons aujourd'hui parler des vins du Sud-Est. Bien sûr, c'est une tâche quasi incommensurable. Ce que nous allons essayer de faire, c'est de nous recentrer sur la côte du Rhône pour ne pas trop nous étendre. C'est quand même le premier vignoble de France, mais c'est aussi le premier vignoble du monde en production, en termes de production. Donc, nous allons rester dans les vins rouges et d'autres vins et d'autres régions à l'intérieur de la même région pourront peut-être faire l'objet, même certainement, d'une autre émission, tout simplement. Voilà, donc pour aujourd'hui, je vous invite à parler donc de la côte du Rhône, des vins du Sud-Est à travers la côte du Rhône. La côte du Rhône, nous allons définir depuis l'amont vers son embouchure, vers la mer Méditerranée, comme étant la côte du Rhône septentrionale au nord, avec un maximum de crus de luxe, de très très beaux crus dont il faut parler impérativement. Et ensuite, bien sûr, de la côte du Rhône méridionale, assez différente, bien sûr, en raison de son histoire, mais aussi et surtout des différents cépages, et aussi et surtout des différents sols et de la géologie de la région, qui est très très variée. Donc nous allons bien sûr commencer par nous inscrire en termes de géographie sur une zone qui va de Vienne, on va dire, jusqu'en Avignon, avant que ce dédale de fleuve ne parte vers la Méditerranée. Donc dans la première partie, sachant déjà que nous avons trois grandes régions, 20% occupées par des vins blancs quand même, 80% par des rosés ou des rouges. Nous allons parler donc essentiellement des vins rouges et juste de deux vins blancs qui seront à l'affiche parce qu'ils sont quand même hors pair. Tout d'abord donc la côte du Rhône qu'on appelle septentrionale, celle qui est au nord bien sûr de cette région, qui est représentée par des crus quasi mythiques. Si on parle du vin blanc, c'est le Condrieux, bien évidemment, avec le cépage Viognier, mais aussi, bien sûr, tous les rouges en Hermitage, en Croze Hermitage, la fabuleuse côte rôtie, se définissant en côte blonde et côte brune, bien sûr, le Château Grillé, région du Château Grillé, qui est aussi une très très belle appellation, moins connue, mais superbe. Et ensuite, nous irons vers la côte du Rhône méridionale. Et là, nous attendent différentes appellations, différentes maisons, à commencer par les Rastos, que nous trouvons maintenant un peu partout, y compris dans la grande distribution, avec des produits assez réguliers, variés et de belle qualité. La région de Kéran, la région, bien sûr, de Gigondas, chère aux chasseurs, mais pas qu'aux chasseurs, de vins très fins, très puissants, de Vaqueras. Les Baumes de Venise, une enclave qui fait des vins rouges, mais aussi des vins doux, moelleux, presque quasi liquoreux, à l'intérieur de cette région. Et bien sûr, en dehors du Ventoux et du Luberon, bien à l'est du pays, nous allons parler bien sûr, un peu en particulier, des Châteauneuf-du-Pape, avec les origines bien sûr de cette région menée et développée, certainement à grands frais à travers les siècles, avec toute l'histoire papale. Donc, bien sûr, suivront une légère présentation sur les côtes du Rhône, que l'on appelle village, ce qui n'est pas du tout réducteur, sur la rive droite, où s'associe aussi toute la région des Corbières et de la Clairette, ça n'est pas rien. Les Corbières, dont je vous rappelle la fabuleuse phrase de Jean Ferniaud, très grand éditorialiste du Figaro et président, directeur général et fondateur de la revue Cuisine et Vins de France, qui disait en parlant des Corbières, c'est une région pinardière qui produit une piquette pissée par des vignes incontinentes. Mais bien sûr, nous étions dans les années 80. Aujourd'hui, je pense qu'il va falloir porter un autre regard, et ça se fera certainement dans le cadre d'une autre émission, on pourra y aller rien que pour cette région. Je pense qu'il sera très intéressant de parler des Corbières aujourd'hui, qui sont sur les plus grandes tables, et avec tous les honneurs dus à leur rang. Donc une région qui possède quand même 17 crus des Côtes-du-Rhône, des crus vraiment, deux vins doux naturels, qui sont notamment les baumes de Venise, bien sûr, que nous connaissons, et après des muscats, et nous pouvons trouver, bien sûr, si on va un tout petit peu plus loin, vers les Pyrénées-Orientales, naturellement des bagnouls, des vins mutés, des colliures, un certain nombre de vins magnifiques dont on n'a pas le temps de parler aujourd'hui, les moris naturellement bien sûr, vins du chocolat. Les villes principales, eh bien, elles sont depuis le nord dont nous allons parler pour nous situer, de Vienne quelque part, en passant par Valence à peu près vers le milieu de la région dont nous allons parler, pour en arriver en Avignon. Au niveau des sols donc, et des styles de vin, pour la faire un peu courte, il y a quand même 5 types de sols, donc ça amène des variantes naturellement et de cépages, mais aussi de travail de la vigne, mais aussi et naturellement de produits à l'arrivée. Donc tout à fait au nord, on va dire que c'est plutôt un sol de granit, hein, ce granitique, avec des terroirs très minéraux et qui donnent des vins minéraux aussi, avec une assez longue garde. On a ensuite une région plus de silice, donc plutôt de sable, qui provient d'ailleurs de la décomposition en partie de ces granites. C'est la région plutôt de Saint-Joseph, de Croz-Hermitage, surtout de Croz-Hermitage, qui donne des vins un peu plus veloutés. Ensuite, on a quelque part des dépôts de mer, naturellement, puisque la mer tenait cette place-là à l'époque, qui ont un rôle de régulation un peu identique à ce que l'on connaît et dont nous avons parlé, aux graves blanches, par exemple dans le Bordelais, c'est-à-dire tous ces galets qui ont la capacité d'emmagasiner en fin de journée l'excédent de chaleur du soleil pour le redonner la nuit comme une forme de cuisson lente pour le raisin. On trouve ça plutôt sur Châteauneuf-du-Pape, d'où sa grande finesse, mais aussi en Lirac, mais aussi en Tavel, dans les Rosés. Nous avons aussi bien sûr des terres d'argile, alors tout ça bien sûr n'est pas unique, tout ça est mélangé certainement bien sûr, mais nous avons des argiles parfois en dominante, qui apporte bien sûr l'équilibre au raisin, hein, par trop chauffé par les galets, hein, ce terroir dont nous parlions il y a une seconde, avec ses gros galets. Donc l'argile qui apporte un équilibre, mais aussi de la matière au vin. Alors la vigne était présente, bien sûr, elle était déjà présente du temps des Romains. Elle a été longuement soignée avec la présence des papes, qui ont dû mettre certainement les moyens pour développer cette belle région, qui était une région aussi commerciale. Elle a été développée par le baron de Boiseau-Marié, qui est quelqu'un de très connu parce qu'il était un héros de la guerre de 14-18, mais qui avait su et qui avait compris que ces sols secs, dont personne ne voulait à l'époque, étaient une barrière au phylloxéra. Donc sur la crise de phylloxéra, il installe des vignes et il permet à cette région de repartir, d'avoir un renouveau et de se développer à nouveau à travers différentes appellations. Alors nous allons parler des cépages rapidement pour faire le tour avant de parler des vins. Donc les cépages au nord, bien sûr, dans les vins rouges, c'est essentiellement le cépage emblématique actuel que nous trouvons maintenant un peu partout. C'est le cépage roi, c'est la Syrah, car il est issu d'un climat chaud et permet de donner le croquant et le soleil qui est attendu notamment aujourd'hui par la clientèle mondialisée, car nous ne nous voilons pas la face. Cette région est une région en plein développement, avec des vins qui ont un goût très concentré, qui ont, comme les vins du Nouveau Monde, qui sont marqués par le bois aujourd'hui, et par l'extraction de fruits, et ces vins permettent bien sûr toutes ces techniques de vinification, puisqu'ils sont plein de soleil, ce qui plaît beaucoup, ça donne un goût de croquant naturellement, et le cépage le plus propice aux vins jeunes que nous les recherchons maintenant, et aux vins flamboyants, c'est essentiellement la Syrah, effectivement, que nous retrouvons aussi, bien sûr, plantée beaucoup en Australie, beaucoup en Californie et aussi en Afrique du Sud. Ensuite, bien sûr, des cépages d'identité de cette belle région, mais plutôt des cépages du Sud. Le Grenache noir, un vin cépage emblématique du Sud, très cultivé en Espagne, qu'on appelle aussi la Garnacha. Voilà, que l'on trouve en Catalogne, que l'on trouve en Navarre, en Rioja, aujourd'hui un peu supplanté par le Somontano, mais quand même très en place actuellement, qui donne des vins que nous connaissons tous ici, extrêmement puissants, mais très aromatiques et très épicés. Donc c'est le Grenache noir, qui existe aussi en blanc, on en parlera un peu tout à l'heure. Vient derrière le Mourvèdre, un cépage assez original, qui a un petit côté âpre, mais qui permet des assemblages de structures assez étonnants et qui est mené dans les appellations de pointe par des vinificateurs quand même de pointe aussi. Mais le Mourvèdre peut utiliser parce que difficile à manier, mais cette âpreté amène une superbe dans les grands vins. Ensuite, nous avons le cinsault. Le cinsault qui est aussi le cépage de tous les vins de soif, notamment des rosés, bien sûr, mais aussi des blancs du sud, qui sont très extraits, très aromatiques. Un cépage qui marche bien, qui est très implanté. Et un cépage très, très intéressant, bien sûr, s'il est très bien cultivé, c'est le Carignan, que l'on trouve alors là vraiment chez les vinificateurs de pointe et dans les appellations de pointe. On en parlera bien sûr tout à l'heure avec la visite des grandes appellations. Dans les vins de soif, eh bien, c'est aussi le Grenache blanc, c'est aussi la Clairette que nous connaissons tous, ce vin pétillant qui nous s'associe souvent d'ailleurs avec ou la Marsanne et ou le Bourboulin, qui est un vieux, très très vieux cépage de la région. Alors, à noter aussi, bien sûr, dans les blancs, ben, le cépage roi dont nous parlerons, qui se situe, bien sûr, au sud de la région, plus au sud, oh, pas au nord, pardon, de la région, dans le Condrieu, hein, puisque, voilà, il est fait sur des plants de graphite, un cépage qui donne quelque chose de très minéral, de très floral en même temps, sur les fleurs blanches, sur le poivre blanc, et des parfums délicats, comme la pêche et l'abricot. Un vin très suave et très rond, mais nous en parlerons après une légère pause musicale pour digérer un peu toutes ces notes florales et épicées.
Elisa, 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 saute-moi au cou. Elisa, 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 cherche-moi des poux. Enfonce bien tes ongles et tes doigts délicats dans la jungle de mes cheveux. Elisa, 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 saute-moi au cou. Elisa, 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 cherche-moi des poux. Fais-moi quelques anglaises et l'arrêt au milieu. On a 13-14 ans à nous deux. Elisa, 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 les autres on s'en fout. Elisa, 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 rien que toi, moi, nous, t'es 20 ans et 40. Si tu crois que cela me tourmente, ah non, vraiment, Elisa. Elisa, Elisa, saute-moi au cou. Elisa, 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 cherche-moi des poux. Enfonce bien tes ongles et tes doigts délicats dans la jungle de mes cheveux, Elisa.
Salut, c'est Lou Gourmandaz, vous êtes bien sur MDM 93.8 Chalosse-sur-Sang, 101.1 Mont-de-Marsan. Allez, retour sur notre balade dans le vin du sud-est. Et donc, après avoir présenté le contexte, le paysage sur lequel nous allons nous balader, je vous propose de parler maintenant des appellations les plus connues, parce que si nous devons parler de tout le monde, bien sûr, naturellement, il nous faudra beaucoup de temps. On va essayer de se concentrer sur ce qu'il y a de plus en vue dans la région. Donc, si je parle du Nord, bien sûr, naturellement, on pense immédiatement à la Côte Rôtie, une appellation emblématique et qu'il faut voir absolument, ce qui nous rappelle aussi qu'il ne faut pas acheter tous nos vins dans les foires aux vins, mais peut-être se déplacer dans les régions qui sont tellement belles, celle-là notamment, autour d'Ampuis, avec des pentes vertigineuses et qui donnent bien sûr naturellement tellement abruptes, tellement exposées au sud, des vins terriblement charpentés, des vins superbes, et évidemment, on ne voit pas comment autrement, plein de soleil, des grands vins de garde rouge, notamment la Côte Rôtie, connue pour être la côte brune, se divise en côte brune sur la partie haut, qui est plutôt cultivée sur des schistes, et la côte dite blonde, plutôt sur le bas, qui comprend des schistes, mais aussi des argiles, et donc produit des vins un peu différents, un style de fruits noirs très très concentré, qui amène des parfums de mocha, des parfums de réglisse, un parfum un peu chocolaté, moins que dans le mori, mais quand même très chocolaté, et surtout, ce qui est fait sa légende depuis des lustres, et qu'on ne retrouve à mon avis pas dans 50 endroits, mais peut-être dans un autre seulement, c'est le lardet fumé, le fameux lardet fumé, cette pointe fumée que l'on a dans les narines quand on hume ce vin immédiatement, au début et à la fin, où on y porte le nez. Donc c'est assez extraordinaire. Pour moi, il n'y a que le Haut-Brion, que nous connaissons tous, en Pessac-Léognan, dans la ville de Bordeaux, qui possède, et on ne sait pas toujours l'expliquer pourquoi, ce côté lardet fumé absolument splendide, et cette longueur un peu boisée en même temps de brûlé, qui est inscrite dans le gène de ce vin, dans l'ADN de ce vin, assez extraordinaire, qui est la caractéristique certainement la plus mise en avant de la côte rôtie, même si pour moi il n'y a pas que ça, c'est un vin tellement suffisant, tellement grandiose par lui-même, que même en dehors du lardet fumé, il ferait quand même le bonheur de toutes les papilles. Donc, si vous avez l'occasion de passer du côté d'Ampuy, qui est un endroit absolument merveilleux, allez visiter cette côte rôtie, vous allez voir ces pentes vertigineuses, ces murets qui ont été bâtis, comme disait Jean Ferrat, dans la montagne. Avec les mains dessus leur tête, ils avaient bâti des murettes jusqu'aux en haut de la montagne. C'était vrai, tout à fait vrai, et chaque rang, chaque cep de vigne est gagné sur cette pente absolument vertigineuse, depuis des lustres, par des gens qui ont tout fait à la main. Ça vaut vraiment la peine de se déplacer, ça vaut vraiment le coup de le voir. La côte rôtie, appellation emblématique, mais vraiment à voir et surtout à déguster une fois dans sa vie. Derrière, je dirais, toujours au nord, pour moi, l'un des plus grands du sud-est, c'est l'Ermitage, bien évidemment. Alors, autour de la commune de Thain-l'Ermitage, aussi très très belle commune à visiter, bon, même si vous ne serez certainement pas seul puisqu'il y a pas mal de tourisme, un massif granitique exceptionnel qui produit 25% de blanc d'Ermitage, pour ceux qui auront la chance, et je pèse mes mots, de pouvoir en déguster parce qu'il y en a très très peu. Le Ermitage blanc, très 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 exceptionnel, notamment des grandes maisons, hein, je ne veux pas citer leur nom, mais il y a trois grandes maisons qui produisent ça, c'est vraiment absolument superbe. Donc c'est bien sûr des vins de très grande délicatesse, mais des vins très ronds, des vins qui en même temps sont sur la Marsanne, qui est le cépage majeur, et la Roussanne en blanc, qui sont des cépages vraiment originaux, d'identité de cette région, qui vont très très bien, donnent un blanc fabuleux, évidemment hors de prix, ça va de soi, hein, mais avec des parfums assez uniques, de genêt, d'acacia, une très très grande longueur, des vins très beurreux, très gras, et surtout derrière une finale assez incroyable de truffes blanches, que tout le monde découvre, je crois, assez facilement, tellement elle ressort en puissance. Donc bien sûr, l'Ermitage, pour tous ceux qui pourront, il faudra le faire, ça vaut la peine de le faire. Parfois, il faut faire, pour quelques libations, des efforts, ça vaut le coup de se payer une bouteille et de la déguster, c'est très exceptionnel. Ensuite, bien derrière les Crozes Ermitage, une appellation peut-être plus abordable, mais n'empêche au rapport qualité-prix, de très bons rapports qualité-prix, puisque assez rapidement, on a des prix qui baissent vraiment de façon significative. Pourquoi Crozes Ermitage ? Parce que le terrain est tout à fait beaucoup moins granitique. Hein. C'est un terrain qui est fait d'alluvions, davantage d'alluvions. Donc des sols qui vont quand même en profondeur, mais qui n'ont pas la même richesse. Qui produit quand même des vins plus légers. Mais l'argile blanche de Kaolin, qui est très belle là-bas, à partir desquelles on fait aussi beaucoup de réalisations de poteries, de choses assez uniques, donne aussi un parfum et une teneur assez incroyable à ces vins. Donc on est derrière Ermitage, c'est le Crozes Ermitage, mais c'est surtout dans les rouges et dans les blancs, des choses très 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 intéressantes, surtout dans les rouges bien évidemment, qui sont souples, plus facilement abordables, mais aussi plus faciles dans la dégustation, certainement. Bon, on va parler bien sûr maintenant des vins du sud. Hein. Dans le sud, il y a quelques appellations tout à fait au nord, ce sont les Rastos. Pourquoi les Rastos ? Parce qu'ils peuvent intéresser un maximum d'entre nous. C'est-à-dire que ce sont des vins qui sont puissants, mais qui sont fins. et qui, avec leurs notes très, très, très particulières, très épicées, ont une saveur vraiment extraordinaire. Je pense notamment aux têtes de cuvée qui sont produites assez régulièrement tous les ans par Rasto avec la même régularité, avec une cave coopérative à Rasto qui permet à tout le monde d'acheter du vin. Je trouve que c'est quand même très intéressant. Et des vins qui se tiennent, qui sont puissants, mais qui sont fins, de très beaux tanins. Vraiment, je trouve que la visite est intéressante pour faire votre entrée dans les vins du sud, donc de la côte méridionale. Là-dessus, bien sûr, bon, je ne voulais pas passer sans parler de Gigondas, tout ça parce que j'avais une attache familiale avec mon père, bien sûr. Gigondas, c'était les vins qu'on appelait de chasseurs, des vins de cépage grenache, ce cépage local, élevé dans des pièces de bois, des grandes pièces, certains un peu dans des pièces neuves. Fantastique allié du gibier, bien sûr, mais aussi de très beaux plats en sauce avec des parfums de fruits noirs, de cerises noires, de poivres blancs. Moi, j'allais dire de cave humide parce que c'est un parfum qui me permet de synthétiser beaucoup d'autres parfums. Mais je pense que c'est vrai, comme on dit pour certains cigares, qu'ils ont des parfums de cuir de vieille bagnole. C'est un peu vrai, je pense que c'est plus facile à aborder comme réflexion que des choses dans l'infinitésimale, naturellement. Donc voilà, pour moi, fruits noirs, cerises noires, bien sûr, poivre blanc, mais surtout cette ambiance de cave humide, vous voyez, ce très beau parfum. C'est pas le lard des fumées, mais c'est un peu ça quand même. Gigondas, vraiment, des vins souples, des vins puissants, mais avec des parfums de garrigue, de touches soyeuses, des tanins très très veloutés, exceptionnels, vraiment à goûter sur les plats qui se tiennent, quoi, de l'agneau au plat en sauce. Ensuite, donc, l'appellation les plus en vue, ben, naturellement, là, je ne voudrais pas passer sous silence celle qui, naturellement, a bénéficié des soins et des prières de nos papes successifs. C'est le Châteauneuf du Pape, bien évidemment, lié à l'histoire papale de cette région autour des Avignons. Donc, moi, j'y vais directement parce que j'ai un faible, naturellement, pour le château de Beaucastel. Pourquoi ? Parce que Beaucastel, c'est la famille Perrin. Aujourd'hui, c'est Pierre, c'est Thomas, c'est Charles, c'est Mathieu et César, bien sûr, que j'embrasse, entre autres. Mais ils sont la relève d'une maison absolument incroyable, qui depuis très longtemps est dans la biodynamie, et dans la qualité des vins, et dans le fait de produire des choses saines, mais très très belles. Alors bien sûr, bon, à Beaucastel, comme ailleurs à Châteauneuf-du-Pape, on est dans les rouges, ça va de soi. C'est le Grenache et le Mourvèdre, à cause des sols épicés et des fruits secs. Ce parfum d'épices et de fruits secs que l'on y trouve, c'est assez étonnant à travers ces cépages, peut-être parce que le Mourvèdre amène cette âpreté, aussi fraîcheur, mais bien sûr volume et charnu, vin extrêmement puissant. Parfum de bigarreau, bien sûr, naturellement, c'est assez étonnant, mais il y en a ici, hein, de la cerise qui n'est pas rouge, à chair ferme. Bien sûr, une espèce de gelée de fruits rouges, on pourrait l'appeler comme ça, pour faire la synthèse de plein de parfums très ronds, très juteux. Châteauneuf-du-Pape, superbe, et puis la garrigue derrière, parce qu'on a du mal à imaginer que nous sommes déjà très près de la mer, bien sûr. Alors dans le blanc, je crois que là, il faut faire une parenthèse particulière pour le Châteauneuf-du-Pape blanc, en biodynamie, bien évidemment. À mon avis, ne pas mourir sans avoir goûté une fois le Châteauneuf-du-Pape blanc, qui est issu de cépages roussanes et de très vieilles vignes. À Beaucastel, par exemple, ce sont des vignes qui ont plus de 100 ans, qui sont très peu peuplées actuellement, qui sont vendangées à la main, bien évidemment. Des toutes petites cuvées de petits rendements. C'est la roussane centenaire. C'est ce grand blanc sudiste qui mérite d'être attendu au moins 10 ans avant d'être consommé, qui amène tous ces rancios de bois, des choses vraiment uniques. Mais bon, pas seulement, il offre aussi tout dans sa jeunesse, c'est évident. Mais si vous savez l'attendre un peu, vous verrez ce nez superbe, cet œil d'or cuivré, parce que c'est du vieil or qu'on a dans l'œil. Mais derrière, avec ce nez qui respire le miel, un peu l'encaustique et les fleurs blanches, parce que ce parfum de fleurs blanches, il est dans la finale un peu en amertume, c'est superbe. En bouche, vous verrez, une bouche onctueuse, une matière très très ample, quelque chose d'incroyable, des saveurs de pêche, de noisettes, de roses, de safran, avec une pointe de poivre soulignée par une légère once d'iode, parce que nous nous rappelons aussi, bien sûr, que le passé marin du territoire est là, mais aussi que les effluves de la mer ne sont pas loin. N'oublions pas la fraîcheur de ces agrumes, bien sûr. Hein. Donc on y trouvera de la mandarine, du kumquat, du citron vert, et bien sûr, certainement du pamplemousse, qui feront cette petite finale longue et de légère amertume, parce que ce n'est pas une amertume violente, on est plus sur la fraîcheur des agrumes, quelque chose vraiment qu'il faut goûter, je vous assure, à tout prix. Que dire alors ? Oui, bien sûr, c'est incroyable. Parfois, le coup de foudre vous atteint. C'est comme un enchantement, c'est comme une rencontre fatale, un goût de folie dont on ne peut plus se départir. C'est vraiment une région incroyable qu'il faut visiter. Nous n'avons parlé que des grands, on aurait pu parler de plein d'autres appellations. Il nous faudrait du temps, beaucoup de temps. On pourrait aussi parler avec l'été des rosés. Peut-être nous donnerons-nous d'ailleurs l'occasion de faire une émission supplémentaire pour en parler. Moi, je pense qu'il faut que vous gardiez en mémoire deux noms, même s'ils n'ont pas besoin de notre publicité. Le domaine de chez Vernet, bien sûr, de Vernet, la famille Vernet, en Condrieu, dans la Côte du Rhône septentrionale, le blanc de la Côte du Rhône septentrionale, parce que c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Ce cépage viognier conduit comme personne. Et le domaine de Beaucastel, château de Beaucastel, bien sûr, en Châteauneuf-du-Pape, dont vous n'oublierez pas, croyez-moi, je vous assure. Quant à moi, ben écoutez, je me plais à vous donner rendez-vous pour une prochaine émission, pourquoi pas sur les rosés, pourquoi pas sur les blancs, en tout cas sur une autre région. Ça ne sont pas les régions qui nous manquent, ni l'envie. Donc, à tous, à très bientôt, bonne dégustation et à bientôt sur nos ondes.